VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 13 janvier 2023. La ministre américaine des Finances, Janet Yellen, est attendue en Afrique la semaine prochaine pour le suivi du sommet États-Unis-Afrique. En RDC, c'est l'incertitude quant à la participation du camp de l'ancien président Joseph Kabila aux élections de 2023.
Les places de l'opposition au sein de la CENI, conformément à la loi modifiée à 2021, n'ont pas été respectées.
On retrouvera dans la partie magazine Ferdinand Cambéré, porte-parole du PPRD. Congrès des indépendantistes sahraouis aujourd'hui en Algérie sur fond de tensions régionales. La Russie affirme avoir pris le contrôle de Soledad, Kiev dément. Le président américain reçoit aujourd'hui le premier ministre japonais Fumio Kishida. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, le Cameroun a exporté plus de 216 000 tonnes de bananes en 2022. Et les sports, le CHAN débute aujourd'hui en Algérie et tiendra en haleine les amoureux du ballon rond jusqu'au 4 février. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'apprête à entamer une tournée africaine dans le sillage du récent sommet États-Unis-Afrique de Washington. Les précisions de Timothée de Nongmaï.
Madame Yellen se rendra au cours des deux prochaines semaines au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Sa mission, approfondir les liens de longue date entre les États-Unis et les pays africains et proposer des investissements durables et de qualité qui ne pèsent pas sur les pays bénéficiaires en raison d'un endettement insoutenable, a expliqué un responsable du Trésor américain. La secrétaire américaine au Trésor aura des entretiens avec des responsables gouvernementaux et du secteur privé pour discuter de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des questions de dette et des investissements dans les infrastructures, selon de hauts responsables du Trésor. Au Sénégal, elle rencontrera le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit de la première visite de longue durée en Afrique d'un haut responsable de l'administration américaine depuis que le président Joe Biden a annoncé en décembre des programmes commerciaux d'investissement d'un montant de 15 milliards de dollars en Afrique.
John Godfrey, premier ambassadeur américain nommé au Soudan depuis 23 ans, a appelé d'ex-groupes rebelles à rejoindre l'accord censé sortir le pays du marasme après le putsch de 2021. Il est important de noter que le processus reste ouvert, a dit dans un entretien à l'AFP jeudi soir M. Godfrey, dont le pays est à la manœuvre au Soudan au sein de la Troïka formée du temps de Béchir avec la Grande-Bretagne et la Norvège. Des négociations ont débuté le 8 janvier entre civils et militaires et portent sur des questions épineuses la justice dans un pays où les manifestants réclament le jugement de ceux qui ont tué près de 400 d'entre eux depuis 2019 et la réforme des forces de sécurité pour notamment intégrer ou non ex-rebelles et paramilitaires. Les chefs de la diplomatie française et allemande ont appelé aujourd'hui les pays africains à condamner l'agression russe en Ukraine tout en insistant sur la volonté de l'Union européenne d'intensifier ses relations avec l'Union africaine. Nous avons des intérêts communs et nous avons des attentes à l'égard de nos amis africains, a déclaré la ministre française Catherine Colonna à Addis Abeba à l'issue d'un point de presse au siège de l'Union africaine. Même message délivré par son homologue allemande, Annalena Baerbock. La paix en Europe est attaquée pour nous avons besoin de vous, nous avons besoin de l'Afrique pour défendre la paix. Les deux ministres arrivés jeudi en Éthiopie pour une visite de deux jours s'exprimaient aux côtés de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. La Cour constitutionnelle du Bénin a confirmé aujourd'hui la victoire de la coalition au pouvoir lors des élections législatives du week-end dernier et le retour au Parlement de l'opposition après des boycotts et des exclusions lors des précédentes élections. D'après le décompte final, les deux partis de la coalition au pouvoir, l'Union progressiste pour le renouveau et le Bloc républicain, sont arrivés en tête et en deuxième position avec respectivement 37,56% et 29,23% des voix. Le parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi, les démocrates, est arrivé en troisième position avec 24,16%. Le taux de participation n'a été que de 37,79% selon la Cour, soit un taux légèrement inférieur aux 38,6%. 66% fournis par la commission électorale. La répartition des sièges établis par la haute cour reste conforme à celle établie par la commission électorale, soit 53 sièges pour l'Union progressiste pour le renouveau, 28 pour le bloc républicain et 28 pour les démocrates. Les indépendantistes du Polisario au Sahara occidental se réunissent en congrès à partir de ce vendredi pour renouveler leur direction dans un contexte de vive tension entre leur allié algérien et le Maroc qui contrôle 80% du territoire. Rosine Monizero.
Plus de 2200 délégués et 370 invités étrangers se retrouvent pendant 5 jours à 175 km au sud de la ville algérienne de Tindouf, dans le camp de réfugiés de Dakhla, qui porte le nom d'une ville côtière du Sahara occidental, un territoire riche en phosphate et aux eaux poissonneuses, au cœur d'un conflit vieux de 50 ans. L'actuel chef du Polisario, Brahim Ghali, 73 ans, qui semble jouir de l'indispensable soutien d'Alger, paraît assuré d'être réélu lors du congrès qui s'est ouvert dans l'après-midi et s'achèvera mardi. Il s'agit du premier congrès depuis la reprise de la lutte armée fin 2020, a souligné Mohamed Jaislem Beysate, ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud. Le congrès se tient alors que le Sahara occidental est au cœur de tensions exacerbées entre les deux puissances du Maghreb. L'Algérie a en effet rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en raison de profonds désaccords sur ce dossier et du rapprochement sécuritaire entre Rabat et Israël.
La militante anti-apartheid Frene Ginwala, qui fut la présidente de la première Assemblée nationale démocratiquement élue en Afrique du Sud et la première femme à occuper ce poste, est morte à l'âge de 90 ans, a annoncé aujourd'hui la présidente sud-africaine. Frene Ginwala avait été nommée présidente de l'Assemblée nationale en 1994, tandis que Nelson Mandela était élu président, marquant la fin du régime d'apartheid.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a affirmé aujourd'hui avoir pris le contrôle de la petite ville ukrainienne de Soledar à l'issue d'une bataille féroce. Une annonce immédiatement démentie par Kiev, selon qui des violents combats étaient toujours en cours. Mohamed Oumfa.
Le ministère russe de la Défense a déclaré que la libération de la ville de Soledar a été achevée le 12 janvier dans la soirée. Une victoire d'une grande importance pour la poursuite des opérations offensives dans la région de Donetsk, selon Moscou. De violents combats se déroulent toujours à Soledar, a immédiatement répliqué à la télévision ukrainienne le porte-parole du commandement Est de l'armée ukrainienne. Selon lui, les forces armées ukrainiennes maintiennent la situation sous contrôle dans des conditions difficiles face aux meilleures unités du groupe russe Wagner et d'autres forces spéciales russes. De petites retraites ou manœuvres ne signifient pas qu'il faille les percevoir comme une grande défaite, a-t-il lancé à la télévision ukrainienne. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, un organisme basé aux États-Unis, la capture de Soledar, une petite ville d'environ 10 000 habitants avant la guerre, est peu susceptible de présager un encerclement imminent de Bakhmout, situé à 15 km au sud-ouest de Soledar, une cible principale de l'armée russe.
Le président américain Joe Biden reçoit aujourd'hui le premier ministre japonais Fumio Kishida à la Maison-Blanche. Le chef du gouvernement nippon, qui était en Europe plus tôt cette semaine, cherche à renforcer les liens de son pays avec les Occidentaux face à la pression grandissante de la Chine en Asie-Pacifique. Abdourahman Dia.
Avant de rencontrer le président Joe Biden, Fumio s'est entretenu dans la matinée avec la vice-présidente Kamala Harris, qui a rappelé la solidité des relations entre le Japon et les États-Unis. Elle a annoncé la signature d'un accord de coopération spatiale. La visite du premier ministre nippon fait suite à celle de Joe Biden à Tokyo en mai dernier et à une rencontre entre les deux lors d'un sommet régional au Cambodge en novembre. Les ministres américains et japonais des Affaires étrangères et ceux de la Défense se sont rencontrés mercredi et ont annoncé une coopération renforcée en matière de sécurité. Et les responsables américains ont salué l'ambition du Japon visant à renforcer ses capacités militaires. Officiels américains et japonais ont déclaré avoir élaboré une vision d'une alliance modernisée destinée à prévaloir dans une nouvelle ère de concurrence stratégique. Le gouvernement japonais a dévoilé en décembre une refonte de la doctrine de défense du pays, prévoyant un quasi-doublement des dépenses militaires pour les porter à 2% du PIB national d'ici 2027, alors que Tokyo considère désormais la Chine comme posant un défi stratégique sans précédent à sa sécurité.
L'entreprise familiale de l'ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée aujourd'hui à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars pour fraude financière et fiscale, a annoncé le procureur de Manhattan dans un communiqué. Le groupe du milliardaire américain, candidat à l'investiture du parti républicain pour la présidentielle de 2024, était jugé pour fraude fiscale et falsification de déclarations comptables, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
Le Cameroun a exporté plus de 216 000 tonnes de bananes en 2022, selon les statistiques de l'Association bananière du Cameroun, une hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Selon l'association, ces performances haussières sont dues à l'arrivée à maturité des plantations de 2021 et dans une moindre mesure de la reprise des activités dans certaines plantations de la CDC qui faisaient face à l'insécurité causée par le conflit dans les régions anglophones. En Afrique du Sud, le groupe public de production d'électricité Eskom a défendu vendredi une prochaine forte hausse des prix du courant dans un contexte de coupure d'électricité record, en soulignant la nécessité d'augmenter les tarifs pour sauver ses finances en difficulté. L'autorité de régulation de l'énergie a permis à Eskom d'augmenter ses tarifs de 18,65% à partir du mois d'avril, alors que le groupe affiche une dette de plus de 23 milliards de dollars. Le Maroc enregistrera en 2023 un rebond de sa croissance de 3,3% si sa campagne agricole est épargnée par la sécheresse historique des dernières années selon les projections du HCP au commissariat au plan. La reprise reste dépendante des incertitudes liées notamment à l'évolution de la guerre en Ukraine, des taux d'intérêt et des risques épidémiques et climatiques selon le HCP.
Place maintenant au sport avec Timothée Donagmaï. Bonsoir, Tim.
Bonsoir, Jean-Roger.
Après deux années d'attente, le championnat d'Afrique des Nations Total Energy 2022 débute ce soir à Alger.
C'est précisément à partir de 19h temps universel que le pays hôte, l'Algérie, croisera le fer avec la Libye au stade Nelson Mandela de la capitale algérienne. Une arène de 40 000 places qui devrait faire le plein ce soir pour assurer un bon départ aux jeunes fennecs algériens. Les jeunes Libyens, anciens champions de la compétition, entendent eux aussi bien entamer cette partie, ce qui devrait donner lieu à une bonne rencontre. Pour rappel, cette compétition est réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux.
Selon toute vraisemblance, le Maroc ne sera pas de la partie.
Et non, Jean-Roger, c'est la fausse note qu'on redoutait tant. Tôt ce matin, les jeunes lions marocains s'étaient pourtant présentés à l'aéroport de Rabat en attente du feu vert des autorités algériennes pour décoller, sans suite apparemment. Et pour faire le point de la situation, retrouvons à Rabat notre analyste sportif Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Timothée, bonsoir à tous.
Alors Amine, c'est confirmé, les jeunes marocains champions en titre n'iront pas au champ en Algérie.
Tout à fait, le Maroc, double tenant du titre, ne pourra pas participer à ce championnat d'Afrique des Nations. Je rappelle la donne, depuis 2021, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie ont été rompues unilatéralement de la part du gouvernement d'Alger. Quelques semaines plus tard, celui-ci décidait d'interdire aux avions marocains, aux avions immatriculés dans le royaume chérifien, de survoler le territoire algérien. Du coup, les équipes marocaines qui devaient participer à des compétitions en Algérie, toutes disciplines confondues, devaient se rendre par un vol régulier à Tunis, puis rallier la capitale algérienne ou la ville d'Oran, par exemple, lors des derniers Jeux méditerranéens, via un vol commercial tunisien. Évidemment, le cahier de charge qui a été signé par la Confédération africaine de football et le comité d'organisation local stipulait qu'il devait donner toutes les facilités nécessaires pour la participation des équipes en lice. C'est sur cette base que la partie marocaine, après une réunion du comité directeur de la Fédération marocaine de football, avait demandé des facilités pour un vol direct entre Rabat et Constantine, lieu où devait disputer le Maroc ses trois premiers matchs du premier tour de la compétition via le transporteur officiel de la Fédération royale marocaine de football et des équipes nationales marocaines, à savoir la compagnie Royal Air Maroc. Le Maroc a attendu jusqu'à la dernière minute une acceptation de la partie algérienne et l'acceptation du plan de vol. L'avion était sur le tarmac ce matin de l'aéroport Rabat Salé. Les joueurs étaient en train d'attendre cette autorisation pour pouvoir monter dans l'avion et rallier la ville de Constantine. Et visiblement, il n'y a jamais eu de réponse de la partie algérienne. Patrice Motsepe, président de la CAF, présent ce matin lors du tirage au sort du Mondial des clubs, a même affirmé qu'il y avait un blocage, mais que la
Confédération voilà, voilà un blocage que nous regrettons tous dans ce chaîne.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le FCC, la coalition qui soutient l'ancien président Joseph Kabila et son parti politique, le PPRD, refusent de s'enrôler pour les élections de décembre 2023, aussi longtemps que les délégués qu'ils ont eux-mêmes choisis ne seront pas admis comme membres de la Commission électorale nationale. Pourtant, il ne reste plus que 2 semaines pour la fin de l'enrôlement dans la partie ouest du pays. Eddy Sango a joint à Kinshasa le porte-parole du FCC, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré.
Nos électeurs ne devront pas s'enrôler parce que la position du FCC qui contestait la consensualité à cette CENI quasiment n'a pas évolué. Le fait de la volonté du pouvoir qui voudrait organiser les élections avec une CENI unilatéralement constituée. Les places de l'opposition au sein de la CENI, conformément à la loi modifiée à 2021, n'ont pas été respectées. L'opposition est en dehors de ces processus et donc n'est pas concernée par ces opérations d'identification et d'enrôlement. Ce sont des élections qui ne sont pas les élections du peuple.
En clair, donc, vous boycottiez ces opérations, vous n'allez pas participer aux élections.
Boycott, je ne sais pas, parce que nous avons dit que si vraiment il faut rester dans cette logique de vouloir ramener les pays dans la dictature où on organise des élections sans l'opposition, vouloir organiser les élections en dehors de cette opposition, c'est donc ériger encore une fois la dictature, instaurer encore une fois la dictature dans notre pays. Ça, on a dit qu'on ne laissera pas ceux qui étaient opposants hier, qui ont beaucoup claironné, on ne va pas les laisser comme ça continuer la forfaiture. Donc, on isera, si vraiment c'est leur volonté, de l'article 64 qui donne droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution et en violation des lois de la République.
Oui, la CENI a donné 30 jours pour les opérations d'enrôlement, d'abord dans l'Ouest et puis dans l'Est. Est-ce que vous pensez que dans ces 30 jours, l'autre camp va pouvoir répondre à votre requête? Et si ce n'est pas fait durant ces 30 jours, ça veut dire que vous n'aurez pas d'électeurs?
Bon, déjà, même la façon dont ils ont lancé, il y a point de doute que c'est un fiasco total. Parce que même l'engouement des électeurs qui, en réalité, pour la plupart, vont chercher cette carte pour, comme carte des citoyens, ce n'est pas nécessairement qu'ils soient attirés par ces élections au regard de la situation politique et sécuritaire, socio-économique du pays. Personne ne parle des élections aujourd'hui. Si vous allez à l'Est, déjà Kinshasa a difficile à faire enrôler même 500, rien que pour la ville de Kinshasa, 500 000 électeurs, alors qu'ils promettaient enrôler 5 millions.
C'était Ferdinand Kambéré, porte-parole du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Une statue au Bénin de l'une des femmes guerrières du Dahomey, qui est apparue dans le film hollywoodien The Woman King, a probablement été construite par une société nord-coréenne sous sanction, selon une enquête du service coréen de VOA. Dans une interview exclusive avec La Voix de l'Amérique, le gouvernement béninois dément l'implication de la Corée du Nord dans l'édification de cette statue. Un reportage d'Harry Wilkins à Cotonou au Bénin, avec le récit d'Abdourahman Dia.
Les Amazones du royaume du Dahomey sont incontournables dans l'histoire culturelle du Bénin et une source de fierté nationale. Leur histoire a récemment fait l'objet d'un film d'Hollywood, The Woman King. Depuis que cette statue a été dévoilée à Cotonou par le président Patrice Talon en juillet 2022, elle a attiré des visiteurs de tout le pays et d'ailleurs.
On peut dire que c'était le symbole de la lutte, parce que vu leur histoire, des femmes combattantes qui étaient plus difficiles que les hommes et qui défendaient leur territoire.
Mais une enquête récente du service coréen de la VOA a découvert que la statue avait probablement été construite par le studio d'art Mansuade en Corée du Nord, célèbre pour avoir créé des statues de dictateurs du pays et des monuments à travers le monde. Mansuade fait actuellement l'objet de sanctions des Nations Unies visant à empêcher le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'accéder à des devises étrangères qui pourraient aider à financer le programme d'armes nucléaires du pays. Le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée du Nord, créé en 2006 pour surveiller les sanctions économiques imposées au pays, ne s'exprime pas publiquement pour protéger l'identité de ses membres. Mais il a fourni à VOA une déclaration écrite disant qu'il n'était pas convaincu de la réponse des autorités béninoises. La VOA s'est entretenue avec le ministre béninois du Tourisme et de la Culture, Babalola Jean-Michel Hervé Ambibola, et lui a présenté les preuves du service coréen de la VOA. Voici sa réponse.
C'est une statue qui a été dessinée par un plasticien béninois qui s'appelle Julien Sissogan, qu'on peut retrouver, qui est connu. Maintenant, le Bénin s'est adressé à des entreprises qui sont spécialisées dans le bronze, dans le moulage du bronze. Pour moi, c'est la Chine qui a eu ce marché, clairement. Maintenant, est-ce que ceux qui ont travaillé, ces Chinois qui ont travaillé, est-ce qu'ils ont eu des ingénieurs coréens? Je n'en sais rien. Il n'y a que le ministre des Affaires étrangères pour lui dire ça.
L'enquête du service coréen de la VOA a révélé que la commande de la statue avait été passée par le gouvernement béninois à la Blue Dragon International Development Company, considérée comme une société écran chinoise pour Mansuade.
Cette interview n'est pas bonne, je la fais pas. Il faut arrêter ça. Elle n'est pas bonne. Je la fais pas. Hein, je la fais pas. Je la fais pas.
Le ministre a donc mis fin à l'entretien. Même lorsque les sanctions sont violées, l'ONU n'a que peu de pouvoir pour obliger les nations impliquées à faire face aux conséquences. Les sanctions se sont jusqu'à présent révélées inefficaces pour empêcher la Corée du Nord de poursuivre son programme d'armement nucléaire. Les autorités nord-coréennes n'ont pas répondu aux demandes de la VOA pour une réaction.
Les Gabonais, qui sont à peine plus de 2 millions dans leur pays, sont très peu nombreux aux États-Unis. Organisés au sein de petites communautés, ils se réunissent de temps à autre pour célébrer la culture et l'héritage de leur pays. En décembre, ils ont organisé un événement à Washington visant à promouvoir l'entrepreneuriat. Nathalie Barge a tendu le micro à quelques intervenants.
L'événement a réuni des entrepreneurs et experts invités par la diaspora gabonaise des États-Unis. L'influenceur social panafricaniste Frank Tucker Ebang a animé la rencontre. Consultant en entrepreneuriat, il est engagé dans divers projets pour promouvoir des talents africains.
C'est justement l'opportunité à tous ceux qui pensent qu'en étant dans la diaspora, on a toujours une oreille derrière au pays, justement de se présenter et puis communiquer, créer un pont avec le gouvernement chez nous, avec les activistes ou on va dire aussi les acteurs de l'entrepreneuriat, de l'action économique dans le pays pour qu'ensemble nous puissions justement contribuer à la remontée de l'édifice de nos origines.
C'était l'occasion pour certains de présenter leurs activités dans l'espoir d'attirer des investisseurs. Kobe Maxwell, producteur et réalisateur d'origine ghanéenne, coprésident d'African Diaspora Network TV.
Vous savez, même entrer dans la plateforme pour diffuser notre contenu, en particulier le contenu lié à l'Afrique, est très difficile. Ce sont donc les défis auxquels nous sommes confrontés ici, la distribution et les investisseurs.
Le parcours de l'expatrié est rarement un long fleuve tranquille. Il s'agit de s'adapter et de gagner sa vie dans un environnement très concurrentiel. Diane Levasseur, artisane originaire du Gabon.
Je suis venue ici pour présenter mon nouveau business de bougies que je suis en train de lancer. Je l'ai fait, ça fait à peu près maintenant 2 ans, mais entre-temps, mère célibataire, donc c'est pas facile avec l'enfant. Mais en tout cas, j'ai décidé de lancer ma marque. J'ai trop hâte d'avoir plein de commandes.
Exposition, débat, atelier, la diversité était au rendez-vous de l'événement qui a même reçu des membres du gouvernement gabonais. Hugues Mbadinga Madia, ministre des Investissements et du Partenariat Public-Privé du Gabon.
Nous avons particulièrement apprécié les échanges avec la diaspora qui, bien évidemment, constituent des acteurs de cette problématique de l'investissement. Parce que l'investissement, nous n'allons pas le concevoir simplement sous l'angle des grands groupes internationaux. Il faut que la diaspora soit aussi un acteur dans l'objectif justement d'amener plus d'investissements vers le Gabon parce que c'est la clé de la transformation.
Plusieurs artistes étaient présents, dont la chanteuse Annie-Fleur Batchielili, fondatrice du centre de médiation Moulébi.
On parle de médiation quand il y a conflit, et quand il y a conflit ou dégradation des relations, il faut restaurer l'entente. Et je pense que ce rendez-vous nous interpelle tous et nous demande quel est l'apport de chacun pour le meilleur que nous souhaitons pour le Gabon.
La présidentielle au Gabon est prévue en octobre 2023, 7 ans après celle de 2016, dont l'issue a fortement divisé les Gabonais. Lors du gala de clôture organisé dans le Maryland, chacun a surmonté ses divergences politiques pour s'aligner sur une vision commune, une entente mutuelle au nom de la prospérité économique des Africains d'Afrique et d'ailleurs.
Les États-Unis ont annoncé leur intention de créer une unité des Marines plus agile basée à Okinawa pour aider à défendre son allié le Japon et toute la région Indo-Pacifique contre les menaces croissantes de la Chine. La coopération plus profonde intervient alors que le président Joe Biden accueille ce vendredi le premier ministre japonais Fumio Kishida à la Maison-Blanche. Reportage de la correspondante diplomatique de la VOA, Cindy Sen, le récit avec Ginny Niwa.
Les menaces croissantes de la Chine ont incité les États-Unis et le Japon à étendre et à approfondir leur coopération militaire et diplomatique à des niveaux jamais vus auparavant, selon de hauts responsables américains. Jeudi, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que le président Joe Biden ne pouvait être plus satisfait des relations plus étroites entre les États-Unis et le Japon et se réjouissait d'accueillir ce vendredi le premier ministre Fumio Kishida à la Maison-Blanche.
Le Japon augmente ses capacités et le fait en étroite collaboration avec les États-Unis. Et notre investissement dans nos alliances rapporte d'énormes dividendes et nous sommes impatients de célébrer demain.
Mercredi, le secrétaire d'État Anthony Blinken a accueilli les ministres japonais des Affaires étrangères et de la Défense au département d'État, saluant un certain nombre de changements majeurs dans leurs relations pour contrer la menace chinoise dans l'Indo-Pacifique.
Je pense que ce que vous voyez en temps réel, c'est une alliance qui se modernise et les États-Unis et le Japon travaillent en étroite collaboration pour se préparer aux défis émergents dans l'Indo-Pacifique et au-delà.
Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait qu'une invasion chinoise de Taïwan était imminente, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré qu'il avait récemment été témoin d'un comportement militaire très provocateur de la part de la Chine.
Et encore une fois, nous pensons qu'il s'efforce d'établir une nouvelle réalité. Mais que cela signifie ou non qu'une invasion soit imminente, j'en doute sérieusement.
La Chine a réagi jeudi à l'annonce d'une coopération plus étroite entre les États-Unis et le Japon. Voici le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin.
Les États-Unis et le Japon doivent veiller à ne pas nuire aux intérêts d'un tiers ou à la paix et à la stabilité régionale.
Blinken et Austin ont vivement salué l'annonce récente par le Japon de son plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris la capacité de mener des contre-attaques contre des bases ennemies. Dans une déclaration sans détour, de hauts responsables américains et japonais ont déclaré que la Chine était leur plus grand défi stratégique et représentait une menace sans précédent pour l'ordre international.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.